La première.
Du lundi au vendredi à 23h12.
Opinion.
Bien le bonsoir à toutes et à tous, Yannick Bovier avec vous pour cette nouvelle édition d'Opinion FGTB. On est ensemble pour quelques minutes, comme tous les jeudis soirs sur la première. Et ce soir, nous sommes, figurez-vous, au musée du capitalisme qui fait en ce moment étape à Liège pour quelques jours, jusqu'au 12 octobre exactement, dans les locaux du Beaumur. Et nous y sommes ce soir en compagnie de Sophie Bruno, qui est cinéaste et dont le nouveau film sort en ce moment au cinéma. C'est un film documentaire stupéfiant et ça s'appelle « Rêver sous le capitalisme ». Bonsoir Sophie Bruno.
Bonsoir.
Sophie, ça s'imposait qu'on se retrouve ici, au Musée du Capitalisme, pour parler de votre film. D'abord, je voudrais que vous racontiez à nos auditeurs qui sont les rêveuses et les rêveurs de votre film, et puis comment on rêve sous le capitalisme.
Les rêveurs et les rêveuses, ils viennent de cadres d'activité très différents les uns des autres. Ça a été d'ailleurs pour moi une gageure, c'est ce qui a été long à obtenir dans le cadre de la fabrication du film. C'était d'avoir les rêves aussi bien d'une caissière de grande surface que d'une médecin, que d'un cadre supérieur dans une société d'ingénieurs. Et donc, ce qui est important, je pense, dans le film et que les spectateurs reçoivent, c'est que ces gens, en fait, dans leurs différences, parlent d'une même voix. Et ils racontent la même chose, c'est-à-dire des pratiques qui sont généralisées dans le monde du travail, qu'on peut repérer dans le film, que ce soit la taylorisation, l'intensification, l'utilisation managériale par la peur, et que ces pratiques créent des souffrances indues. Donc voilà, ces gens n'en peuvent plus parce qu'il y a d'un côté 10 personnes qui attendent à la porte, et c'est ce qu'on leur dit, et qui veulent bien prendre leur boulot. Et d'un autre, une protection sociale à l'extérieur qui est détricotée, notamment par ce gouvernement, et qui fait qu'ils ont aussi l'impression que rien ne les attend à l'extérieur. Donc on se retrouve dans une espèce de dilemme qui, à mon avis, va créer de plus en plus de violence.
Donc ça veut dire que les rêves qu'on découvre dans votre film sont plutôt des cauchemars, en fait.
Oui, la progression du film va vers de plus en plus un univers cauchemardesque, mais au point que la réalité qui est décrite, puisque les rêveurs racontent, font leur récit d'un rêve de travail, et ensuite l'interprètent, l'associent eux-mêmes. Et on se rend compte que, petit à petit, ce qu'ils décrivent de l'extérieur et qui racontent leur état et ce qui a engendré leur récit, est plus cauchemardesque que le cauchemar lui-même. Et donc il y a un glissement comme ça entre le rêve et la réalité, où le cauchemar n'est pas nécessairement là où on le croit.
Un de vos films précédents que vous avez réalisé il y a un peu plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, faisait déjà un tableau plus qu'inquiétant de la souffrance au travail. Est-ce qu'à votre avis, c'est encore pire aujourd'hui ?
Oui, pour moi, entre « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés », qui a effectivement été réalisé, sorti en 2005, et aujourd'hui, 2018, il y a eu une dégradation. À l'époque, je croyais qu'on avait atteint des limites, mais pas du tout. C'est-à-dire que des méthodes managériales qui provoquent des dégradations chez les salariés se sont généralisées du privé au public. Et non seulement ça, mais ce que je voyais, par exemple, la première situation d'entretien avec une ouvrière à la chaîne de montage dans « Ils ne mourraient pas tous », où on voit que l'intensification, elle l'a intégrée dans sa façon de parler, dans le fait qu'elle n'arrive plus à reprendre son souffle, qu'elle bégaye du fait du rythme qu'on lui impose, aujourd'hui je le retrouve dans le tertiaire. Donc non seulement ça s'est généralisé en termes de cadre d'activité, mais en plus ça s'est approfondi au niveau du mal-être et de la dégradation. Je vois bien dans les premières projections que le film a faites en Belgique, il y a une émotion qui est palpable parce que je pense que beaucoup de gens s'y reconnaissent et qu'effectivement qu'aujourd'hui on travaille dans des banques, dans les assurances, dans des hôpitaux, dans l'enseignement ou à la SNCB, tous sont confrontés aux mêmes pratiques managériales et avec une course au profit qui en vient à confiner à l'absurdité, à une perte de rapport de sens. D'ailleurs, on pourrait voir chaque histoire de rêve, il y en a 12 dans le film, comme une espèce d'histoire de perte. Et je pense que le système capitaliste néolibéral court à notre perte. On le voit quasi à l'œil nu aujourd'hui en termes d'environnement, mais c'est pareil dans le monde du travail.
Vous avez réalisé ce film « Rêver sous le capitalisme » en écho à un ouvrage de Charlotte Bérat qui est intitulé « Rêver sous le Troisième Reich ». Qu'est-ce qui est comparable entre un rêve sous le Troisième Reich et un rêve aujourd'hui sous le capitalisme néolibéral ?
Alors évidemment, je n'ai pas voulu faire d'amalgame, mais par contre, ce qu'on relève en termes de banalisation de l'injustice sociale, ce sont les processus. C'est-à-dire que Hannah Arendt, dans son analyse du totalitarisme, pointe la peur comme étant un principal moteur pour obtenir des gens ce qu'ils réprouvent moralement. Et donc cette peur qui engendre des comportements de soumission, d'obéissance, et surtout, et c'est ce qui me frappe le plus, annihile la faculté de penser. Et bref, Bérate a cet intérêt que dans une période où on ne peut plus parler, elle va essayer d'exprimer ce qui arrive à travers ce qu'il y a de plus intime, qui sont les rêves, mais quand ils sont manifestes, c'est-à-dire quand on fait clairement le lien entre le contexte qui l'a engendré et le récit du rêve, ont une valeur de force critique incroyable, en fait, parce qu'à la fois poétique, à la fois grossissant le trait, parce que c'est toute la définition de la nature du rêve, il a la propriété de la condensation, de l'exagération et de la métaphore. Ce sont des images parlantes. Ils sont brefs, mais ils en disent long. Et donc, on peut aujourd'hui tirer à nous ce matériau onirique qui est par nature évanescent, parce qu'il a des choses à nous dire sur nous-mêmes, sur notre époque, sur notre vivre ensemble.
Les rêves des rêveurs de votre film sont donc des rêves politiques, des rêves de contestation de la domination dont sont victimes les femmes et les hommes au travail.
Oui, d'ailleurs, Bérate les appelle comme ça, elle les appelle les rêves politiques. Et c'est là où moi j'ai été complètement déplacée à la lecture du livre « Rêver sous le Troisième Reich », c'est qu'elle réhabilite le rêve comme matériau anthropologique. Et elle confirme, en faisant cette collecte, leur capacité à dire l'époque et aussi à révéler du sens. Parce qu'ils ont, comme le cinéma d'une certaine manière, cet effet de loupe qui permet de magnifier les détails, de revoir ce que nous ne voyons plus, et aussi avec une capacité de déformation qui fait qu'on arrive à revisiter par les traits de l'exagération, de la caricature, notre propre réalité, mais avec un esprit critique en fait. Et c'est là aussi où la caricature est souvent forte, c'est qu'elle a une portée critique qui permet effectivement d'être étonné, d'être interpellé et d'arriver à réfléchir et à se penser soi et nous dans le monde.
C'est ce qui vous revient des premières projections du film en salle de la part des spectateurs ?
Oui, tout à fait. Ce qui m'étonne en fait, et qui en même temps était une ambition du film, donc je suis contente qu'elle arrive, mais c'est que les spectateurs, spectatrices, tirent le film à eux dans la question qu'ils posent, c'est-à-dire comment nous sommes travaillés par le capitalisme dans notre propre subjectivité. Et je vois que le film porte des questions dont les gens s'emparent et dont les réponses leur appartiennent. Hein. C'est un film ouvert, un peu à l'image des rêves.
Si on est menacé, envahi, dominé, même jusque dans ses rêves, est-ce qu'il n'est pas à un certain moment urgent de se réveiller ?
Je pense que c'est peut-être paradoxal à dire, mais que les rêves sont là pour nous réveiller, pour éveiller notre conscience, pour nous ouvrir les yeux, pour aussi, à travers des récits dans un espace de relâchement qui est quand même le sommeil, nous rappeler en nous mettant une espèce de miroir devant les yeux qui nous montre notre propre réalité, donc qui nous le montre dans une espèce de langue étrangère, mais qui en même temps fait partie de notre personne. Donc c'est ça aussi l'étonnement que sont les rêves, c'est que à la fois ils ont cette capacité à nous dire comme nul autre ce que parfois nous sommes incapables d'entendre. Et effectivement, ils disent aussi que quand il y a une souffrance au travail, on ramène ça à la maison. Donc il n'y a plus de rupture entre vie professionnelle et vie privée, ni entre conscient et inconscient. Et il n'y a plus de zone de repli et de répit. Donc effectivement, il est temps de se réveiller. Je pense qu'une des fonctions des rêves est aussi de nous agiter.
Un peu comme le cinéma, quoi. Merci beaucoup, Sophie Bruneau. Je rappelle que votre film s'appelle « Rêver sous le capitalisme » et qu'il vient de sortir au cinéma. On peut trouver toutes les infos utiles et les dates des projections prévues dans les prochains jours sur votre site alterego-film.be, en un mot et avec un S à film, alterego-film.be. Et pour ce qui est du Musée du capitalisme où nous étions ce soir, je vous renvoie au site web museeducapitalisme.org. Courez vite visiter ce musée à Liège jusqu'au 12 octobre. Et bien sûr, courez voir le film de Sophie Bruneau, Rêver sous le capitalisme. Bonne soirée à toutes et à tous et surtout faites de beaux rêves libérés de toute domination. Bonne nuit. Salut.